Voilà, donc cette lumière est immatérielle et on comprend aussi ce que ça veut dire. Hein. Ce qui est dans la lumière n'est plus caché dans les ténèbres. Et j'avais dû vous citer ça les années précédentes par rapport à la lumière. Si on est dans le noir, on ne voit pas qu'on a des taches. Plus la lumière est brillante dans notre vie, plus on s'aperçoit que ben voilà, c'est sa vie de costard. Moins le costard de l'âme, c'est bien ça qu'il dit. Alors donc, nous ne pouvons pas les enlever par nous-mêmes, mais la seule chose à faire, c'est de regarder vers cette lumière qui cherche nos ténèbres. Alors voyez ça, je vous parle comme ça, j'en reviens à la prière. Si vous priez, c'est-à-dire si vous êtes dans cette relation simple à Dieu, comme il est lumière, eh bien, petit à petit, cette relation que vous priez dans le fond, suivant cette image que je vous donne, c'est regarder dans la lumière. Donc cette lumière, si vous vous exposez à elle, va petit à petit chasser ce qui est ténébreux en vous. C'est en moi. On est tout pareil. Comme dit Saint Paul, nous avons tous été enfermés dans la désobéissance. On est tous des êtres pécheurs. Et quand on confesse, on se dit, ben ça va, quoi, ils n'ont que ça, tu t'arrives sur le port. C'est vraiment pécheur. Hein. Donc, voilà. Mais en même temps, il se sert, on pourrait dire, aussi de nos fautes, parce qu'on les supporte mal, souvent. Et parce qu'on les supporte mal, on prie vers nous. Alors, parole d'un homme à propos de la lumière. Cette relation de fraternité qui regarde toujours vers la lumière, c'est qui regarde vers lui, comme son toit vers ses fils, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Parce que cette lumière, comme Girondin. Et ce matin, c'était le somme parmé. Après, c'est le département du Tourmer, ouais, c'est mon taureau dans les trônes. Hein, voilà. Le tome du Tourmer. C'est des pommes, il n'y a pas de S dans les DST. Hein. Alors voilà, un Dieu qui nous aime à l'image d'un Père.
Là, il nous aime en ce moment-là.
Et comme Dieu est cette lumière de vérité, d'amour et de vie, eh bien, si. Alors d'une part ça dépend du sacrement de baptême, hein, qui nous reste dans la lumière et qui donne par cette capacité, si vous voulez, de recevoir la lumière, de la comprendre, de l'aimer. Et au fur et à mesure qu'on se livre à la lumière, et on réalise de plus en plus ce côté extraordinaire qu'on est enfant de Dieu et qu'on est aimé. Parole que j'ai dû vous citer, mais peut-être je vais me permettre de la remémorer. Parole d'une carmélite qui disait à sa prieure, c'est parce qu'elle est morte à 26 ans, elle disait à sa prieure, laisse-toi, elle prend dans ce qu'elle écrit à sa prieure la place du Christ. Et c'est comme le Christ, c'est comme si le Christ disait à sa prieure, laisse-toi aimer, c'est ta vocation, quelles que soient les choses que tu aies faites, œuvre de péché et de misère, mais laisse-toi aimer. Mais voyez-vous, le fond, le cœur de la prière, c'est cela. Mais si c'est des formules magiques, des prières que je récite comme ça, ça vient de moi, et c'est parce que je sais les lire, que ça marche. Mais voyez, c'est une offrande de quelqu'un qui s'en fout dans l'état où nous sommes. Il a déjà donné sa vie. Et ce qu'il veut, ce qu'il veut le plus souffrir, c'est que nous n'acceptions pas d'être sauvés. C'est-à-dire de jouir de sa propre vie, d'être des enfants de lumière, d'être ses propres enfants. Donc, je reprends, Dieu se suffit à lui-même, mais nous a voulu par pur amour pour nous faire partager ce qu'il est. Donc, parole encore du Carmel, ô âme, vous qui avez été faite pour une telle grandeur, à partager la vie de Dieu, à quoi passez-vous votre vie? Voilà, donc un Père qui nous aime, qui nous donne jusqu'à son propre fils, la personne de son fils, et qui porte sur lui toutes nos ténèbres, jusqu'à mourir sur la croix, et inversement, lui nous donne il prend nos péchés et il nous donne sa propre vie. Et nous sommes donc tous destinés à partager cette vie divine, à devenir des ici-bas, parce que ça commence, vous l'avez saisi, des ici-bas, cette histoire-là. Hein, des ici-bas, nous devenons enfants de Dieu, ce qui peut dire à certains instants, qu'est-ce que vous aurez de plus là-haut ? La clair-vision ? Oui, d'accord. Mais je le possède déjà ici. Et oui, déjà, en étant passé comme à travers un feu, c'est encore image de la lumière qui brûle maintenant, comme étant passé à travers un feu, je suis toujours de... Alors voilà, premier aspect de notre Père, un Dieu qui nous aime, qui est notre Père, qui veut nous faire vivre, participer profondément de nous. C'est ça la destinée. Et encore ce matin, je voyais le baptême. Ils reçoivent le Saint-Crème, les petits des gamines. Et j'aurais dit, voilà, qui est-ce qui recevait les onctions? Les rois. Et vous êtes beaucoup plus que ça, parce que les rois, c'est pour cette vie. Mais la véritable royauté, c'est le Christ. Et donc, vous recevez une onction royale aussi, qui fait de vous un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Cette grève sur la ligne. Voilà.
Merci.
Merci, patron. Merci, patron. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la pas la totalité de notre être. Or Dieu est Dieu, il ne peut pas se donner moitié. Quand il se dit tout entier. Ce qui fait que la parole que Dieu dit est identique à ce qu'il est lui. Et cette parole de Dieu, donc du coup, puisque Dieu se dit en entier dans sa parole, il n'a dit qu'une seule parole. Le Verbe. Bon, lorsque le Verbe se fait chair, il s'exprime à travers mon mot, je suis obligé de raconter plusieurs paraboles, etc. Mais il n'a dit qu'une seule chose. Il ne dit que sa parole. Il l'a dit, et donc ça c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Verbe, le Fils. Quand il l'a dit, cette parole, il l'a dit dans un échange d'amour. Mais cet échange d'amour, hein, quand le Père engendre sa parole, cet amour d'engendrement de sa parole, c'est l'Esprit-Saint. Et le Fils, inversement, lorsqu'il se donne au Père, se donne non pas à moitié, mais entièrement, dans toute sa divinité. Donc, le Fils se donne dans l'Esprit au Père. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ce Dieu unique, il y a une relation permanente. Sa part du Père, du pôle Père, qui s'engendre, qui engendre la parole dans l'amour, et la parole se donne au Père dans l'amour. Mais c'est comme si Dieu donnait toute sa divinité jusqu'à disparaître, à n'être plus rien, à mourir, pour donner sa parole tout entière. Et la parole tout entière se donne totalement jusqu'à, entre parenthèses, mourir, pour se donner au Père dans l'amour. Et il y a quelque chose, vous voyez, c'est une pulsation d'amour constante. Et c'est un échange d'amour permanent. Et c'est cela qui, en Dieu, est le cœur de la vie. La vie retenue, c'est quelque chose de mort. La vie donnée, c'est bien ce dit le Christ. Hein, celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui la donne la trouvera. Donc il y a, c'est une unité, mais qui est dans un mouvement, voilà, hors du temps. Hein. Si c'était dans le temps, voilà, c'est à chaque seconde, chaque le Père engendre le Fils, le Fils engendre le Père, constamment, quoi. Hein, dans un mouvement perpétuel. Alors, c'est du mot de l'Église ancienne, si on peut dire Paris, c'est ce qu'on appelle la périchorèse. je m'explique. Hein. Ça ne veut pas dire de faire le tour de la Corrèze. La péri-Corrèze, il y a le mot dedans de Coréa, la danse. Et c'est une danse perpétuelle, vous le comprenez. Ça s'échange constamment. Donc Dieu est unique et en même temps, sans arrêt, il est le pôle d'engendrement, en même temps il est la totalité de sa parole, mais cette parole retourne vers le pôle d'engendrement et tout cela constamment dans un esprit d'amour qui ne peut pas être différent d'eux, parce qu'il se donne totalement dans les deux. Et c'est cela qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce même esprit nous est donné. Il nous fait rentrer en quelque sorte dans sa danse. Sa danse de vie et d'amour. Ce qui fait qu'au paradis, notre vie ne sera pas différente de celle de Dieu. Nous serons à la fois constamment en train de nous donner, donc infiniment pauvres, mais étant infiniment pauvres, nous recevrons la totalité, la plénitude de la richesse. Et nous serons simultanément infiniment pauvres. Donc, une des ruses du serpent, on en revient au premier récit de la Genèse, au deuxième récit de la Genèse, avec Adam et Ève, la ruse du serpent, c'est de sortir l'homme de cette dynamique d'amour, pour essayer de trouver son bonheur par lui-même. En thermodynamique, c'est un système fermé qui va vers une entropie croissante, ce qui conduit à la mort. Mais donc, dans notre... c'est ce que nous demande le Christ, c'est ça, quoi, c'est de sortir constamment de nous-mêmes. Pour, recevant l'esprit, le redonner. Donc, la Trinité en elle-même est insaisissable parce qu'elle est mouvement constant. Et ce mouvement constant, c'est cela même qui est la source de la vie. Et donc, ça dépasse totalement une vie biologique qui, on pourrait dire, chimiquement est donnée, quoi, hein, à travers les molécules, etc. Et qui elle-même, du reste, se remplace. Il y a un turnover. Mais là, c'est une vie. C'est la vie en plénitude, et cette vie en plénitude n'est pas quelque chose de statique. Donc, c'est un mouvement constant, jusqu'à comparer ça à une danse perpétuelle. Alors, nous, être humain, on est obligé de mettre des mots. Et mettant des mots, on divise les choses. On parle de la vie, on parle de l'amour, on parle de la lumière, on parle de la pureté de Dieu, on parle de la pureté. C'est un petit combat. En cela qu'il veut nous entraîner, et c'est pour cela qu'il nous entraîne, pour nous faire partager cette vie en pleine.
Dans les sacrements, par exemple, tu ne peux pas nous passer entièrement, il est présent entièrement dans les sacrements, il est présent entièrement dans l'Eucharistie.
Oui.
À ce moment-là, pourquoi qu'on continue à communier le sujet qu'on a reçu le soir? Il faut le reçoit totalement la première fois.
Oui, mais je ne sais pas, moi. On reçoit totalement, mais on n'utilise pas totalement. On laisse s'évaporer cette grâce. Nous sommes pécheurs et nous retournons constamment au sacrement de repentance. Mais lui, il ne peut pas faire moins que de se donner totalement. Si nous avions si nous n'étions pas pécheurs, si nous avions cette disponibilité totale, effectivement, on fait le sacrement de l'Eucharistie et nous resterions unis définitivement. Bon, c'est justement, pour vous donner une image, hein. Les autres années, j'avais dû vous parler de cela, c'est vrai, bon, c'est religieux, dans un ordre contemplatif, plus on va vers Dieu, plus on s'en rapproche, plus on est amoureux, plus c'est un mouvement d'amour, une dynamique d'amour, et le terme de cette dynamique d'amour, c'est ce qu'on appelle un mariage. Mariage, une consommation du mariage, il y a l'union, et là, c'est l'union véritablement de l'esprit divin avec notre esprit. Nous formons un seul esprit avec Dieu. Et donc, oui, c'est à la suite du mariage, de la réception de l'Eucharistie, que les saints sont rentrés en mariage spirituel. Si vous réfléchissez bien,
regardez le sacrement de l'Eucharistie. C'est un corps. Le corps du Christ. Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Et on le mange, mais ce corps vient dans notre corps. C'est la pénétration du corps de Dieu dans notre corps. C'est une touche. Il n'y a rien à porter de salade, de arrière, de blé, de comme ça dans la chair. Mais je pense, du reste, que ce qui concerne la relation humaine et même l'amour humain n'est qu'une image, ça ne peut pas être contraire à ce qu'est Dieu. Dieu est avant tout amour, et quand on est amour, on veut s'unir à la personne aimée. Ce qui fait que la vocation humaine, il y a une seule vocation, que ce soit à travers le mariage ou à travers une vie consacrée, c'est une vocation à l'amour, à l'union et à la fécondité. Mais la véritable fécondité n'est pas celle qui engendre simplement pour la terre, la véritable fécondité, c'est celle qui engendre pour la vie éternelle. Ce qui explique justement que les vocations sont en place. Certainement, la personne au départ ne s'en rend pas trop compte, mais au fur et à mesure que les années passent, ça devient de plus en plus net. On peut aller très vite comme ça qui serait dans quelques années, pour d'autres, ça va être des décennies, on réalise de mieux en mieux. Donc, la potentialité du sacrement de l'Eucharistie, c'est la divinisation de l'homme. Mais comme nous l'utilisons à moitié, il ne peut pas faire plus que la capacité de confiance et d'abandon à Dieu que nous lui offrons. Ce qui fait que la confiance et l'abandon, c'est des mots du vocabulaire courant, et c'est cela la foi. La foi, c'est cette confiance et cet abandon, de façon à ce qu'il puisse agir en nous. Sinon, il ne peut pas. Mais vous voyez, on reçoit des cadeaux divins qui sont rien moins que lui-même, mais si on n'est pas en disposition pour le recevoir, ben on en reçoit que selon nos capacités.
Est-ce que nos capacités, quand même, on a une source de notre foi, ne sont pas de toute façon limitées par le fait que nous
sommes. Oui. Mais quand même, les personnes arrivent à être unies et définitivement à Dieu, qu'on soit laïque, qu'on soit religieux. Mais en même temps, il y a une forme d'incapacité qui est liée à la corporéité et au psychisme. C'est bien pour ça qu'il nous fait mourir. Parce que sinon, nous ne pourrions jamais arriver à cette unité de Dieu. Le corps que nous avons, c'est un corps de bonheur. C'est un corps pour la mort. Et il ne nous sert uniquement qu'à de tremplin dans notre psychisme qui se soumet à l'esprit, de tremplin pour aller vers lui. Ben, on a beau se faire tirer la peau de tête, il ne prendra pas grand chose à l'esprit. Le seul rajeunissement possible, c'est de se livrer à lui qui est la jeunesse éternelle.
Mais après, on aura un corps qui est
On aura un corps de gloire, oui. Lui, ce qui est semé dans la chair, venez, c'est ce qui est. Mais nous aurons toujours une corporéité. Mais une corporéité plus soumise à la dégradation.
Et ça n'arrivera qu'à la fin du temps, pas dès notre vie.
Alors là, c'est un mystère. Je ne sais pas si après la mort directement, où sont les âmes. Mais il faut savoir aussi ce qui est en Dieu est en dehors du temps.
Oui.
Nous sommes soumis à la temporalité et bon, on sait de par la physique aussi, contemporaine, que l'espace et le temps, tout cela, c'est profondément lié. Or Dieu est celui qui a toujours été, qui sera toujours. C'était une question qu'on se posait du temps de Saint-Augustin. On ne connaissait pas la cosmologie moderne. Et pourtant, Saint-Augustin, dans les confessions, nous dit. Et puis, les gens me posent la question, mais qu'est-ce que vous avez dû avant la création du monde? Si ce n'était pas la Trinité et une paternité, vous auriez pu jouer à la relance. Vous auriez oublié de... Non, donc il n'a pas de sens parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il est. Il reste, quand Moïse demande qui es-tu, il dit je suis. Qui je suis? Justement, il ne dit pas, je m'appelle Gaston, Gustave, Alfred.
Pardon.
l'éternité pour la concevoir comme une intensité d'être et non pas comme une chronologie d'instant.
Ah ben voilà, oui, justement, c'est très justement. Oui. C'est une plénitude d'être et non pas. Oui, de... oui mais sinon, il aurait bien pas sa mort. Si tu consagages déjà ici, ici, là, tu vas avoir une pour l'éternité. On n'est pas sorti de l'air. Hein. Donc, c'est une autre vie. C'est la vie même de ceux qui sont pas qui sont même avec son épouse. Toujours bon Dieu, ça prend conscience. Bon, ben alors c'est reparti mon kiki. Comme en 14, une demi-heure de silence pour méditer sur le fait qu'on est aimé par un père, notre vrai père. On n'a pas eu de déficience, les pères terrestres aussi bons soient-ils. Et donc tout cela, vous voyez, ça signifie profondément qu'on est précédé par un amour. Un amour qui nous veut tout entier. Tout le veut tout entier, c'est pas vraiment un film. Voilà. On a essayé de méditer si l'enseignement est avec nous. Si le bébé se trouve de ça, on va
le faire. On va le faire.